7h49, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire.
Bonjour Sébastien Lecornu.
Bonjour Léa Salamé.
Merci d'être avec nous ce matin. 32 blessés du côté des gendarmes, une trentaine du côté des zadistes. Au quatrième jour de l'opération d'évacuation, le bilan s'alourdit à Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que vous êtes inquiet ce matin? Qu'est-ce que vous allez faire?
Déjà, le calendrier des opérations est tenu depuis lundi matin dernier sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, de la préfète de Loire-Atlantique et du directeur général de la gendarmerie. On savait que ce serait une opération difficile. Dans mon autre vie, j'étais réserviste opérationnel de la gendarmerie. Je sais à quel point les gendarmes ont préparé cette opération. Effectivement, moi, je condamne les violences. Je pense que le tir de fusée, par exemple, sur l'hélicoptère de la gendarmerie, il y a maintenant 48 heures, aurait pu avoir des conséquences absolument dramatiques. Est-ce que je suis inquiet? La réponse est non, dans la mesure où je fais confiance aux forces de sécurité intérieure qui sont déployées. Et on le voit bien que tout cela est fait avec mesure et fermeté. Mais la proportionnalité dans la réaction des forces de l'ordre a été face à la violence qui a été proclamée et dégagée par les opposants.
Avant de parler de la nature de l'opération, si elle est mesurée ou pas, juste pour être très clair, cette opération va durer encore combien de temps selon vous? Ça va se compter en jours, en semaines?
Le temps qu'il faudra, comme a dit le ministre de l'Intérieur, après ça prend du temps, il faut tenir la zone, c'est une zone très étendue, j'ai pu m'y rendre au mois de mars dernier, j'ai pu me rendre compte à quel point on est quand même sur des surfaces qui sont extraordinairement importantes.
Mais là vous misez quoi, à la
vous
fin du mois?
Vous avez des enjeux de nettoyage, de réparation, de déblaiement, personne ne le dit, mais enfin il faut le dire, aujourd'hui la route départementale n'est pas dans un bon état, il va falloir encore refaire des travaux, et je remercie d'ailleurs la patience du président de département sur ces sujets.
Et d'ici donc, ça la prendra, fin du mois, monsieur le ministre?
Ça prendra forcément un peu de temps, je ne suis pas capable de vous donner un délai ce matin, je ne suis pas ministre de l'Intérieur, mais une fois de plus, les délais sont tenus depuis lundi dernier, le démantèlement des squats a lieu patiemment, avec méthode, dans le cadre de l'état de droit.
Il reste combien de personnes à évacuer?
Aujourd'hui, vous avez encore 350 personnes sur la zone, mais une fois de plus, c'est très difficile de comprendre quand on ne rappelle pas que vous avez des personnes en situation juridique très différente. Vous avez des gens qui ont un droit d'être là. Ce sont des agriculteurs qui ont été expropriés, et donc qui vont récupérer l'usage de leurs terres. Vous avez des agriculteurs qui ont une convention d'occupation précaires et qui peuvent prétendre de nouveau à l'avoir renouvelé, surtout s'ils ont un projet agricole et qui viennent le porter devant les services de l'État. Et vous avez des personnes qui n'ont strictement rien à voir avec cette ancienne ZAD et d'ailleurs qui sont arrivées parfois la veille de l'opération pour en découdre avec les gendarmes et n'ont rien à voir avec le projet agricole à Notre-Dame-des-Landes.
Certains dans votre camp, comme le député Mathieu Orphelin, demandent une pause dans l'évacuation pour stopper, je cite, la spirale de la violence. Vous lui répondez quoi?
J'aime beaucoup Mathieu, c'est un ami par ailleurs, mais je pense que lorsqu'il y a un tel déferlement de violence, on ne doit pas avoir la main qui tremble, et le retour de l'état de droit, c'est le retour de la République sur cette zone. Néanmoins, à la différence que j'entendais tout à l'heure, la main est quand même tendue avec celles et ceux qui veulent rejoindre l'état de droit, qui veulent porter un projet agricole, un projet individuel, c'est vrai, pas un projet type Larzac, nous l'avons refusé, je me suis rendu exprès.
Pourquoi?
Sur la zone, parce que c'est pas le modèle que nous souhaitons là-bas. Vous savez, les règles, elles sont faites pour être respectées, pas que pour faire plaisir au gouvernement, parce que les règles en matière d'agriculture, elles sont importantes en matière sanitaire, en matière environnementale, pour protéger le consommateur. Je veux dire, aujourd'hui, on est dans des espaces naturels qui sont en plus protégés aux alentours, sur lesquels, justement, l'opposition à Notre-Dame-des-Landes s'était un peu nourrie de ces espaces naturels. Aujourd'hui, on ne peut pas faire n'importe quoi.
Hier, Benoît Hamon et Clémentine Autain, notamment de la France Insoumise, vous ont reproché de faire la politique de la matraque, que ce soit à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ou dans les universités. Vous répondez quoi?
Que l'état de droit et la République, ce n'est pas la politique de la matraque. Et que, une fois de plus, comme l'a dit le ministre d'État Gérard Collomb hier, je soupçonne certains groupuscules d'extrême gauche d'organiser ou en tout cas de fomenter et d'entretenir ce climat de violence. On n'a pas besoin de ça. Il y a 15 jours ou 3 semaines, on célébrait l'héroïsme du lieutenant-colonel devenu colonel Beltrame et on saluait l'investissement de nos gendarmes. Je pense que 3 semaines plus tard, ça serait bien de ne pas commencer à cogner les gendarmes et à casser du gendarme.
Donc ce matin, vous assumez ces images de violence qu'on voit depuis 3 jours à la télévision?
Mais j'assume des ordonnances de justice rendues exécutoires depuis 2012 pour lesquelles les forces de l'ordre les appliquent. Une fois de plus, personne ne comprendrait l'inverse.
Autre sujet dont vous avez la charge, Sébastien Lecornu, on a appris il y a 2 jours des écarts de qualité, que des écarts de qualité avaient été constatés sur les soudures de l'EPR de Flamanville. D'où viennent ces problèmes et est-ce que c'est grave?
Alors, l'autorité de sûreté nucléaire, qui, comme vous le savez, est le gendarme autonome français du nucléaire civil, va s'exprimer dans la matinée, a déjà commencé à donner des indications hier, effectivement, sur des déficits de contrôle sur les systèmes de soudure, sur un certain nombre de circuits de l'EPR. Je m'étais rendu à Flamanville il y a maintenant quelques semaines, justement, et j'avais pu échanger, non pas de ces difficultés, parce que je ne les connaissais pas, mais en tout cas, du calendrier de l'EPR avec Jean-Bernard Lévy, le président d'EDF. L'ASN va devoir préciser son calendrier, va demander un certain nombre de correctifs à EDF.
Comment c'est possible qu'il y ait eu des déficits de contrôle sur un EPR de Flamanville ?
Pas les déficits de contrôle de l'État, pas les déficits de contrôle de l'autorité de sûreté nucléaire, déficits de contrôle industriel, rassurez-vous.
D'EDF, donc.
Exactement, de ce que j'en sais, au moment où je vous parle, puisque l'ASN va préciser les choses dans la matinée.
Comment c'est possible ?
Mais en même temps, si vous écoutez celles et ceux qui ont été les pionniers de l'aventure nucléaire après-guerre, ils vous disaient que sur les premiers réacteurs civils, comme d'ailleurs sur quelques réacteurs militaires, il y avait eu aussi des aléas et que ça leur avait pris du temps.
Oui, mais là, on est bien après les premiers réacteurs. On est justement sur un réacteur du futur.
Mais le réacteur du futur,
en tout cas, ce qui est vendu.
C'est la réalité, néanmoins. C'est une nouvelle technologie, d'ailleurs, qui prévoit des mécanismes de sûreté en cas de fusion du réacteur nouveau. Enfin, il y a aussi tout le retour d'expérience de Fukushima qui est derrière cela. Oui, il arrive qu'il y ait des retards. J'attends, moi aussi, avec impatience, que l'on puisse quantifier les retards potentiels.
Alors, justement, parce que que les gens comprennent, c'est très clair, puisque derrière, il y a Fessenheim. En gros, dès que théoriquement, le premier réacteur de l'EPR de Flamanville doit commencer à fonctionner l'année prochaine, en 2019, et à ce moment-là, Fessenheim ferme. C'est ce que vous avez promis. Est-ce que le premier réacteur de l'EPR de Flamanville commencera à marcher en 2019, oui ou non ?
Alors, à ce stade, EDF maintient son calendrier, fin 2018, début 2019, mais il va bien falloir tenir compte de ce que l'ASN va dire dans la matinée et va continuer de nous dire jusqu'au mois de mai. Il va bien falloir fiabiliser ce calendrier à l'aune de ce problème des soudures. Après, je tiens à vous dire, Léa Salamé, que le principe de la fermeture de Fessenheim au moment de l'ouverture du réacteur EPR de Flamanville est un principe qui est irréversible. Je m'en rendrai tout à l'heure à Fessenheim pendant 2 jours, comme je l'avais fait déjà au mois de janvier. C'est ma deuxième visite en 3 mois.
Vous aviez été reçu fraîchement, d'ailleurs.
C'est normal, parce que quand ça fait 6 ans que on parle de fermeture d'une centrale nucléaire et que personne ne s'est déplacé sur la zone, qu'on n'a pas eu le courage d'aller voir les salariés en leur disant droit dans les yeux ce qui va se passer et d'organiser la transition de ce modèle après Fessenheim, forcément, ça crée de la colère. C'est pour ça que je me suis rendu à la demande d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe et Nicolas Hulot au mois de janvier dernier sur le territoire, et je vais le refaire pendant 2 jours parce qu'il y a des enjeux importants. Il y a l'irréversibilité du principe, la fermeture de la centrale de Fessenheim, je le redis ce matin, mais ça doit s'accompagner de mesures de protection pour les collectivités territoriales, pour les salariés bien évidemment, pour les sous-traitants.
Vous avez quelque chose à annoncer ?
300 sous-traitants, 335 sous-traitants à Fessenheim, ils ont tous été reçus par la cellule de reclassement que j'avais installée au mois de janvier prochain. La question sociale est dans le cœur de la transition écologique. Puis enfin, il y aura les projets d'avenir. C'est pour ça qu'avec Nathalie Loiseau, on va voir aussi nos amis allemands cet après-midi.
Si l'ASN dit tout à l'heure qu'il y aura 4 ans de retard à cause des problèmes de soudure, est-ce que ça veut dire que Fessenheim fermera dans 4 ans, peut-être au-delà du quinquennat d'Emmanuel Macron ?
Alors, il est trop tôt pour quantifier. Je ne sais pas dire si ça sera quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, ou pire.
Ou quelques années.
Je ne sais pas répondre à cette question. Donc, je pense qu'il est bien qu'un membre du gouvernement ne réponde pas quand il ne sait pas répondre. Ce sera à l'ASN de le dire. Mais il est clair que le principe de la fermeture de Fessenheim est connecté, pardonnez-moi l'expression, à l'ouverture de Flamanville.
Merci, Sébastien Lecornu.
Merci, Léa Salamé.
Belle journée à vous.